Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis un certain temps, on parle de cette idée que selon le judaïsme, si on veut vivre bien, on regarde le mal comme un tremplin pour le bien. Il faut voir dans chaque chose, c'est vrai qu'il faut chercher le bien, d'être bien, mais en même temps, il faut voir, lorsqu'il arrive quelque chose de négatif, il faut voir le côté positif qu'il y a là-dedans ou bien derrière cette idée. C'est pas facile. Pour arriver à ça, il faut peut-être avoir quelques qualités. Tout d'abord, il faut croire à ça. Donc le judaïsme, on croit à ça parce que c'est marqué. Mais même si on croit à ça, c'est pas facile toujours à le sentir. Je crois, mais visiblement, je le vois pas. Donc alors, c'est un lutte de la vie. D'essayer que même si que pas toujours la vie est très heureuse, il faut trouver le côté positif, il faut savoir. Alors il y a plusieurs choses. D'une part, il faut trouver le côté positif. D'une autre part aussi, il faut voir comment ça mène à quelque chose de positif. Même si que bien en ce moment, on est pas tout à fait, on ne le voit pas. Dans le monde en général, c'est un conseil qu'on donne, il me semble, tous ceux qui s'occupent de ce que c'est la psychologie, etc. Alors on donne un conseil de voir le côté positif, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut vivre, alors il faut voir le côté positif. Et c'est mieux que de voir le côté négatif. Il me semble que j'ai raconté plusieurs fois cette notion qu'il y avait, ça vient de Rabbi Tzemach Tzedek, il me semble, le troisième rabbi de Chabad, qui disait à un chassid qui avait des soucis, il a dit, pense bien et ça va être bien. Alors ça, c'est une grande discussion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que je pense bien, alors j'arrive à changer la situation, ou bien ça veut dire que quand tu vas penser bien, tu vas voir ce que tu ne vois pas maintenant. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Parfois, ça c'est vrai, parfois aussi ça c'est vrai. Mais en tout cas, ça c'est clair que même dans le monde qui n'est pas le monde de la Torah, il y a cette notion de voir bien, de regarder bien, de chercher le bien. Et il y a plusieurs détails là-dedans. Mais ça c'est cette notion. Regarde bien la vie et ne regarde pas ce qui ne va pas. Donc alors, à ce moment-là, on a ce regard qu'il y a du mal dans notre monde, mais il vaut mieux de choisir le bien et de s'occuper du bien et de ne pas s'occuper de ce qui ne va pas. De toute façon, on ne peut pas toujours changer. Donc, même quand il y a des drames, même quand il y a des problèmes, on laisse de côté cette vision du mal et on s'occupe plutôt de cette vision positive. Mais dans le judaïsme, il y a une autre vision, beaucoup plus profonde. C'est sûr que c'est comme ça. Mais pour ça, il faut croire. Pour croire, il faut avoir des éléments pour croire. Mais en tout cas, dans le judaïsme, on dit que tout mal, il a en lui quelque chose de positif, que pas toujours on le voit. Et plus que ça, tout mal, il va nous mener vers quelque chose de positif. Et là, c'est sûr que c'est compliqué à croire à ça, parce que c'est pas forcément ce qu'on voit. Et il y a des choses que des mal qu'on a l'impression que c'est des mal absolus, et pourtant comme ça il est marqué. On vient de lire dans le jour de Tisha B'Av, on a lu dans ce qui s'appelle le Megillat Echa, donc le livre d'Echa, qu'il est marqué là-bas que de la part d'Hachem, donc de Dieu, il n'y a pas du mal qui sort. Mais que ça veut dire qu'il n'y a pas du mal? Notre monde est rempli de mal. Alors, effectivement, on a besoin d'explications, beaucoup d'explications. Il y a des choses qu'on ne va pas arriver à voir le bien jusqu'à le temps messianique, où on va comprendre pourquoi et comment. Aujourd'hui, pour le moment, parfois on arrive à voir le bien qui sort de mal. Il y a des gens qui refusent. Et quand il y a un problème, donc ils sont carrément, en tout cas, ils sont carrément dans ces problèmes, ils ne veulent pas voir le mal et le bien qu'il y a là-dedans, que parfois il y a des mal assez visibles derrière ça. Ça suffit de regarder. Parfois, parfois il faut voir beaucoup plus profondément, beaucoup plus loin. Mais parfois, il n'y a pas de bien que visible là-dedans. On passe une vie, on ne voit pas à quoi bon ça sert. C'est mal. Alors pour ça, il faut croire. Donc ça, c'est une partie de la croyance que chaque chose négative, il y a quelque chose de positif. Et on va peut-être pas le voir tout de suite. On va le voir le moment où le monde va devenir un monde de bien. C'est un moment de ma chair. Mais pour le moment, on croit à ça. Mais pour le moment aussi, on s'occupe. On essaye de voir le positif tant que possible. Mais on est dans cette période justement qui est en train de voir cette notion. Il y a cette semaine, on vient de quitter Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'était une date où on a fixé pour faire le deuil. Donc, des problèmes, chaque il a un petit peu plus ou un petit peu moins, mais on est dans un monde où pas tout est rose, et pourtant, toute l'année, on essaie de repousser le problème, de voir le positif. Mais il y a une période, comme on a parlé un petit peu la semaine dernière, c'est une période, mais c'est surtout un jour, c'est le jour de Tisha B'Av, c'est dimanche, que c'est un jour de deuil. C'est un jour de deuil, tout d'abord, bien sûr, pour le temple qui a été détruit deux fois ce même jour. Et en ce moment-là, on se rappelle d'autres deuils qui étaient avant et après, d'autres catastrophes qui étaient avant et après. Et ça tombait justement le jour de Nefav. Il y a pas mal, une grande liste. Mais quelques jours après, il y a deux dates qui sont liées, mais d'une autre part, ils ne sont pas tout à fait liés. Finalement, ils sont liés. Alors tout d'abord, quelque chose qui est très lié, c'est très simplement, ça s'appelle le Shabbat qui vient après Tisha B'Av, s'appelle Shabbat Nachamu. Nachamu, parce qu'on lit l'Haftarah, donc un rajout. C'est qu'on rajoute après la lecture de la Torah, on lit une Haftarah. Alors cette Haftarah qui est rajoutée, ça ne fait pas partie de la Torah, mais ça fait partie de la Bible, des choses qui correspondent à ce qu'on a lu dans ce Shabbat. Alors cette fois-ci, donc pendant 10 semaines, on ne lit pas forcément des sujets de la paracha, même si finalement il y a un rapport, mais on lit des sujets de périodes, puisqu'on était dans les trois semaines de deuil, donc on a lu les sujets qui parlent de ça. Et ensuite, les sept semaines qui suivent après les Nefav, ça s'appelle les neuf semaines de consolation. Qu'il y a, on lit des psaumes, mais pas des psaumes, on lit des prophète qui parle de consolation, justement la vision positive après la notion négative. Et ce Shabbat, on va lire ces prophéties qui commencent par Nachamu, Nachamu, Ami, consolez-vous mon peuple. Donc, alors déjà, il y a une notion de consolation. C'est quoi la consolation? Là, encore une fois, quand quelqu'un qui perd un proche, alors il y a une formule qui dit, c'est pas le nôtre. Il y a une formule qui dit, c'est comme ça la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, c'est pas la peine d'avoir trop de chagrin. C'est la vie, il faut accepter la vie, il faut continuer plus loin. Ça, c'est une formule que c'est pas la nôtre. Nous, on dit autrement. Lorsque, bien sûr qu'il y a cette notion, lorsque on perd, que Dieu préserve un proche, alors à ce moment-là, il y a les jours de deuil. Et pendant ces jours de deuil, il y a les gens qui arrivent. On ne dit surtout pas cette formule que c'est la vie, mais on dit une formule qui est marquée « Amakom yenachem etchem » que Dieu vous console. Ça veut dire quoi? Et encore plus que ça, on utilise ce terme « Amakom ». Dieu, il a plusieurs noms, mais ici, on utilise la notion de Dieu comme l'endroit. Ça veut dire que c'est lui qui remplit l'endroit. Alors, pourquoi Dieu il s'appelle l'endroit? Alors, parmi les explications, c'est il y a Dieu qui est les lois des systèmes, il y a Dieu qui remplit le système. Et puisqu'il remplit le système, il a créé un système. Dans le système, il y a des hauts et des bas, il y a des problèmes, il y a des solutions. Cette personne, ou ces personnes, ils ont perdu leurs proches, et c'est un manque, en plus du fait qu'on a perdu de tels proches, mais ils laissent un vide. Et donc, le seul qui peut remplacer quelque part, on ne peut pas, c'est irremplaçable, un proche qui est décédé. Mais on dit que Dieu, il va remplir votre vide. En tout cas, Dieu, c'est lui qui a créé le système, c'est lui qui a fait en sorte que il y a la personne, il a rempli et maintenant la place est vide et c'est lui qui va remplir cet endroit. Donc on est dans une notion de croyance. C'est vrai que nous, on n'est pas des solutions. Bien sûr qu'il faut essayer d'amener le plus de solutions, le plus de confort possible à ces personnes. D'ailleurs, dans le judaïsme, il y a tout un système qui essaye de récupérer. Mais en même temps, on sait que la personne, tout seul, ne pourra pas arriver. Donc, les personnes, et c'est Dieu qui va faire pour lui qu'il puisse récupérer, qu'il puisse surmonter ses épreuves. Mais on rajoute dans ces phrases qu'on dit en deuilleux, on dit que la place, donc que Dieu, il remplit la place, il va vous consoler parmi tous les endeuillés de Yerushalayim. Quelle est l'idée de Yerushalayim? Donc on les lit avec cette notion aussi. D'une part, le peuple juif, ce qui correspond à Nefav, le peuple juif, ils ont eu une perte énorme. Que ce n'est pas un monument, ce n'est pas un endroit, c'est une idée, c'est quelque part le temple. On a mentionné quelque part, le temple, ce n'est pas seulement un endroit de prière, c'est un endroit qui nous remplit. C'est la foi qui nous remplit. Et là-bas, donc au moment où il y avait le temple, c'était la présence de Dieu dans le monde qui nous a remplis. Et là, cet endroit nous manque aujourd'hui. Donc, alors, comment on peut récupérer? Alors, Dieu, il trouve une solution qui, pour le moment, l'endroit qui est vide, il va être rempli. Et il y a des solutions. Même si, normalement, cet endroit est vide. Mais quand même, il y a des solutions que Dieu lui-même, il a préparées comment remplir le vide. Mais la vraie récupération, ça va être un moment où le temple va être construit. C'est pour ça qu'on dit à ces consolations, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui faire le maximum pour pouvoir remplir le vide, mais c'est Dieu qui va le faire, mais il va le faire comme il va le faire pour Jérusalem. Et d'une part, aujourd'hui, qu'on est dans un monde où on souffre beaucoup, il y a beaucoup de problèmes passés par là aujourd'hui plus que jamais, en fait, peut-être pas plus que jamais, mais en tout cas aujourd'hui, plus que dans les dernières périodes, on voit comment il y a une notion de souffrance et pourtant il faut tenir bon relativement parce que d'une part il faut garder, il faut regarder autour de soi, ne pas être quelqu'un qui n'est pas, ça ne la dérange pas ce qui se passe, mais d'une autre part il faut vivre malgré tout, avec la joie. Donc ça, c'est une force qui n'est pas la nôtre, c'est une force supérieure qui vient de Dieu, mais c'est une force qu'il faut trouver en nous, cette force que malgré tous les problèmes, on surmonte les solutions. Alors ça, c'est par rapport à ce Shabbat Nachamu. Alors il y a des détails, là on a parlé d'une façon générale. Le Shabbat donc, qui suit Tisha B'Av, après les pertes, on trouve la consolation, ça veut dire d'une part être consolé malgré tout, d'une autre part trouver un moyen de surmonter les épreuves par les différentes choses qui nous manquent dans l'Aftar, par les différentes choses, et surtout qu'on sait que finalement il y aura un moment où on va récupérer tout ce qui nous manque aujourd'hui. Donc ça c'est par rapport au Shabbat qu'on lit après Tisha B'Av. Et ensuite, on a quelques jours après Tisha B'Av, c'est le 15 Av. Donc, Nef Av était 6 jours après, et 6 jours avant. Et ensuite, il y a le jour de 15 Av, que là, sur cette date, il est marqué dans le Talmud, Ta'anit, il est marqué qu'il n'y avait pas de jour aussi bon pour Israël comme 15 Av et Kippour. Alors, pour Kippour, on peut comprendre. C'est vrai que Kippour, ce n'est pas un jour de danse, quoique. C'est pas un jour, c'est un jour très sérieux, c'est un jour de jeûne, mais c'est pas un jour de deuil. C'est un jour sérieux, c'est vrai, mais c'est un jour profond. Quelque part, la profondeur, c'est pas un jour de deuil, pas du tout. C'est un jour joyeux, mais un joie bien réservée, un joie profonde. Alors, on peut comprendre le lien entre la joie et Kippour, mais quelque part, le jour de Kippour dépasse tout. Et ça, d'ailleurs, ça explique et pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas, en tout cas visiblement, ils ne pratiquent pas beaucoup. Mais Kippour, il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent, parce qu'il y a quelque chose de profond là-dedans. Ils sont attachés sans savoir pourquoi, sans pouvoir expliquer. Mais c'est comme ça, Kippour, c'est un jour profond, qui touche la profondeur, notre profondeur. Et donc, alors même les gens qui ne le font pas toute l'année, ou les autres choses, mais Kippour, il y a quelque chose qui dépasse. Ok, ça c'est pour Kippour. Mais qu'est-ce que s'est passé le 15 av? Le contraire, le Talmud nous dit qu'il n'y avait pas des jours aussi importants qu'en 15 av et Kippour. On dit 15 av avant Kippour. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le 15 av qui est plus important que Kippour. Alors tout d'abord, qu'est-ce que s'est passé? Là, on ne va pas expliquer ça aujourd'hui, par manque de temps, mais en tout cas, il est marqué comment on a fêté à l'époque de Jérusalem, à l'époque où Jérusalem était à sa haut niveau, comment ils ont fêté les jours de Kippour et les jours de Kanzav. C'est que les filles de Jérusalem, elles en sortaient, elles ont dansé dans les vignes. Et ceux qui n'étaient pas mariés, ils allaient voir. Ensuite, il y avait des mariages qui étaient provoqués à partir de là. Bien, c'est un sujet qu'il faut comprendre, surtout que ça pose pas mal de problèmes. Et pourtant, comme ça, il est marqué. Mais nous, dans notre objectif aujourd'hui, c'est voir l'autre point, pas les détails de cette fête, quoique, mais voir le fait que quelques jours après Nef Av, qui était le jour le plus triste dans le calendrier juif. On arrive, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et aujourd'hui, on a quelques échantillons de cette période, même si on ne le fait pas de la même manière. Il y a quelque chose qui restait, mais on sait que ce jour, à l'époque, correspondait à un jour très joyeux, qui n'est pas marqué dans la Torah. C'est un jour que nous, on a pris sur nous, les juifs, ils ont pris comme coutume de réjouir ce jour. Donc, on sort d'une catastrophe vers la joie la plus complète. Alors, on va rentrer après dans les détails. Quelles sont les raisons qui faisaient que cette date est devenue un jour de joie? Mais déjà, dans la Kabbale, il a marqué cette idée, la Chassidut développe beaucoup, que justement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que après des jours de catastrophe, si on regarde bien le sujet, alors on voit comment les catastrophes, si on regarde bien, comment les catastrophes mènent vers quelque chose de positif. Et si je trouve le positif après les catastrophes, alors à ce moment-là, ce n'est pas un joie relatif, c'est un joie total. C'est une joie très forte. Donc, puisqu'on est après Nef Av, il y avait une notion de réparation après le Nef Av, alors à ce moment-là, ce n'est pas une joie comme ça. C'est une joie parce que justement, c'est comme quelqu'un qui était perdu, on l'a retrouvé. Alors à ce moment-là, ce n'est pas la joie relative, c'est la grande joie, c'est la joie, c'est la grande forme. Alors là aussi, justement, au niveau historique, le sujet de Nef Av était quelque part réparer le Kanzav. Alors, dans le Talmud, on nous raconte pas mal de faits de ce qu'était le Nefav et comment le jour de Kanzav, le sujet était quelque part réparé. En tout cas, c'est de, quand on s'agit des tombes, c'est pas les tombes qui étaient réparées parce que le tombe est toujours pas là, mais il y a des variétés de choses, il y a beaucoup de détails qui n'allaient pas bien. Et finalement, il y a des réparations, puisqu'on a dit, comme on a dit tout à l'heure, que la joie qui vient après une tristesse, elle est beaucoup plus grande que la joie, tout simplement. Et puisque plus que la tristesse est énorme, la joie qui vient après, elle est grande. Comme on attend que les gens kidnappés, ils sortent, et lorsqu'ils sortent, c'est un grand joie. Lorsqu'ils vont sortir, ça est sauf. Ça va être une grande joie, beaucoup plus que des joies normales. Donc, là aussi, par rapport à ça, là aussi, il y a cette notion. Alors, en quelques éléments, on nous raconte 5 choses qui se sont passées le 15 av. Ils sont tous liés avec cette notion de réparation. Alors, il est marqué que... qu'est-ce qui s'est passé le 15 av? Tout d'abord, on sait que le 9 av, il y avait un décret divin que les Juifs, donc, qui étaient dans le désert, ils ne devraient pas rentrer dans la terre d'Israël. Donc, ces Juifs qui étaient dans le désert, ils ne devraient pas rentrer dans la terre d'Israël, ils devraient rester dans le désert. Et chaque année, le jour de Nef Av, c'était une habitude, il y avait plusieurs personnes qui ont atteint l'âge de 60 ans, qui n'ont pas passé cette date. Donc, ils sont morts à cette date. Ça, c'est devenu une habitude à tel point que certainement, qu'on a oublié que c'est que les gens qui sortaient de l'Égypte. Donc, après, il y avait la dernière année de, 40 années, de la 40e année, les gens ils se sont préparés à mourir le jour de Nef Av, et finalement, le jour est arrivé, personne n'est mort. Et c'était très étonnant parce que quand on prend l'habitude de quelque chose, donc on pense, même si on sait que on était prévenu que ça va durer 40 années, mais finalement la nature, comme aujourd'hui, la nature elle prend sur d'autres choses, on a l'habitude, donc on a l'impression que c'est comme ça. Et ils ont été étonnés. Donc, puisque les mois juifs sont liés avec le calendrier lunaire, donc ils ont regardé la lune et ils se sont dit peut-être on s'est trompé dans le calcul. Mais lorsque le 15 av est arrivé, à ce moment-là, la lune elle est pleine. Donc là, on n'a pas de doute qu'on n'a pas fait une erreur. Et à ce moment-là, on a compris, les gens ils ont compris, que ce décret qui a commencé justement le 9 av. Le jour où les explorateurs ils ont fait cette révolte, et à cause de ça ils ont rentré dans le désert, ce jour était le jour de Nef Av, et ensuite le Nef Av était réparé par le 15 av. Alors c'est vrai que c'est pas le jour de 15 av qui a réparé, mais visiblement on a vu que quelque part le problème qui commençait le 9 av et terminait le 15 av. Et depuis, ils ont gardé cette fête. Au niveau aussi, il est marqué que la date de 9 av, donc la destruction, la raison c'était le fait qu'on n'est pas, qu'il manque d'amitié. On est nombreux, on ne pense pas toujours pareil, mais accepter les autres malgré les différences, c'est une faiblesse qui existe parmi l'humanité. Et aussi chez nous, ça ne saute pas sur notre communauté, la communauté juive. Surtout que dans la communauté juive, comme on dit parfois, on développe les différences, on est très différents. Parce qu'on est différents parce que chacun a ses qualités, chacun doit développer ses qualités. Donc quand on développe les différences, c'est difficile d'être différent en même temps et d'accepter les autres. Ça veut dire que si je dis non, on est tous pareils, Alors, parfois, c'est plus facile d'accepter les autres. Mais si on développe d'une part les différences, et d'une autre part, on essaye de garder l'unité avec les différences, c'est très compliqué. Et l'histoire qu'il y ait parmi les histoires, peut-être on ne va pas y arriver à tout parler, il y avait une notion de... on sait que dans la communauté juive, il y a les 12 tribus. Et pourquoi les 12 tribus doivent être bien différents, chacun avec son rôle. Et parfois on dit, le rôle de l'un, ce n'est pas le rôle de l'autre, il faut bien faire les différences. Alors c'est bien beau les différences, mais parfois on sait que, comment ça fonctionne. Et il y a des gens, au niveau des mariages, qu'on ne trouve pas notre dignité dans notre petite communauté. Il faut aller ailleurs pour trouver nos conjoints, notre mari, notre femme, notre épouse. Et là, il y avait un problème. C'est que... En fait, c'était pour la génération, on vient de lire dans la Torah, pour la génération de la sortie de l'Égypte, il y avait une interdiction de se marier entre des tribus. Chaque tribu devrait s'installer en Israël d'abord, avoir une terre à part, et ça devrait être séparé. Et ça, c'était pour la première génération, et ça devrait être comme ça. Comme il est marqué dans la Torah, les raisons, je ne vais pas rentrer là-dedans, on vient de lire dans la Torah, dans le parasha, massé il y a 2 semaines. Mais d'une part, c'est bien beau de faire cette séparation. Chaque tribu est différent. Chaque tribu il doit avoir une part de la terre. Chacun il doit être dans son coin, dans le monde, en fait, dans le territoire d'Israël qui était divisé par 12 tribus. Mais quelque part, ça crée un problème, comme on a dit tout à l'heure, que les choix des mariages étaient difficiles. Pas aussi difficile que ça, parce que quand même, dans chaque tribu, il y a beaucoup de monde, mais quand même, parfois, on ne trouve pas exactement ce qu'on a besoin dans nos tribus. Et il est marqué, là aussi, je ne rentre pas dans les détails, j'essaie de voir les choses d'une façon très générale pour montrer le jour de 15 av, il y avait un événement que finalement, ce décret a été annulé. Donc, alors, ça veut dire que les notions, le fait que c'était créé dans les générations d'après, parce qu'une fois qu'ils ont été installés, alors à ce moment-là, on peut se permettre à se marier entre eux et de ne pas perdre ces différences. Ça veut dire qu'il y a d'une part les différences et chaque tribu elle va être chez elle. Et ensuite, mais quand même, si on va se marier tout avec tout le monde, finalement, au bout de quelques temps, il n'y aura plus de différences. Mais là, une fois qu'on était installé, les différences étaient gardées. Et quand même, l'amitié et le lien... entre les tribus et aussi été gardé. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des choses à expliquer, mais juste puisqu'on a touché juste le sujet pour montrer que le jour de 15 av était une réparation pour le jour de 9 av, parce que le jour de 9 av c'est une notion de séparation. Une notion de séparation n'est pas positive, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, que ça crée des zizanies, ça crée des problèmes, c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Mais le jour de 15 av représente le contraire, une notion de mariage entre nous, on développe le mariage. Il y a d'autres raisons, si c'est que les 9 av commençaient à s'arranger le 15 av, alors c'est vrai que c'était quelques détails, mais quand même, et le jour de 15 av représente cette notion de réparation pour les 9 av. Et là, on trouve cette idée qu'on se dit au début, que dans la vision juive, la vision générale du monde, la vision quand quelqu'un qui essaie d'être de bonne santé, de toute façon, il essaie toujours de voir dans le négatif le positif. Mais dans le judaïsme, on dit que chaque négatif, il a un but positif. Comme on a dit tout à l'heure, c'est très très compliqué à voir. Il y a des choses qu'on ne voit pas. On croit ça, mais on ne voit pas. On ne va pas les voir jusqu'à le temps messianique où à ce moment-là, on va dire cette formule, « Odcha Hashem kenaftabi, merci Hashem pour le mal que tu as fait » parce qu'à ce moment-là, je vais voir comment le mal m'a amené vers quelque chose de positif. Mais ça va être un moment où on va voir les choses d'une autre manière. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau. On croit à ça, mais on ne va pas. On essaie de trouver ça au maximum possible. Mais avec cette approche, justement, qui ont dit qu'il y a quelques jours de différence. Nefav, qui représente quelque chose de mal. Quelques jours après, Kanzav, qui quelque part répare pas mal de sujets qui commençaient, le négatif qui commençait par Nefav, c'est plus facile de voir ça que voilà, quelques jours avant, on a vu les choses d'une façon négative. Quelques jours après, alors pour certains détails, ça réparait le négatif et donc il est devenu positif. Et pour certains détails, on a carrément vu que le négatif était quelque chose de nécessaire et donc positif. Alors, donc on est dans cette période que, et c'est ça le sens de cette consolation qu'il faut savoir. Il faut toujours chercher le positif dans le négatif. Il faut savoir que malgré les catastrophes qu'il y a autour de nous aujourd'hui, donc ce qui nous concerne aujourd'hui dans l'actualité, il y a des problèmes, mais il faut tout d'abord croire au fait que le négatif va nous amener vers le positif. Mais attention, c'est bon quand je peux rien faire. Quand je peux faire, je compte sur Dieu, ça c'est la chose la plus grave. Ça veut dire que je vois quelqu'un qui souffre et je dis tout négatif va amener à quelque chose de positif. C'est pas comme ça qu'il faut regarder, c'est seulement lorsque je peux rien faire. Ou bien je fais, à ce moment-là, j'essaie de montrer à l'autre que le négatif, il y a quelque chose de positif. Mais ça, c'est seulement si j'ai fait mon boulot. Si je ne fais pas mon travail, quand il s'agit de moi, alors en tout cas, quand il s'agit de quelqu'un d'autre, alors je le console que le négatif va créer, va faire, ou bien dedans il y a des positifs, j'essaie de le consoler. Moi, j'ai rien compris parce que j'ai un devoir ici. Donc ça c'est une idée vraie, mais en même temps, il ne faut pas l'utiliser pour manquer d'activité, ne pas faire ce qu'il faut. Mais une fois que j'ai fait les choses, alors à ce moment-là, il faut voir que le négatif amène le positif. En tout cas, ça c'est quelque chose, on peut encore développer beaucoup cette idée, mais ça c'est l'idée, un petit peu le message de ce jour de consolation, que d'une part, il faut faire le nécessaire d'arranger le passé, arranger le mal, conforter les gens qui sont dans la souffrance, mais en même temps, et pas sur le compte de l'acte, il faut voir dans le positif et le négatif. Et donc, ça devient un symbole aussi, le Kanzav, que finalement, on va arriver à cette période messianique où le négatif va être positif et le mal va être bien avec la venue de Moshiach. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.